Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM. Souvenir
FM. Bonjour à toutes et à tous. Merci David pour l'animation musicale. C'est l'heure de l'invité du 12-13, votre émission préférée, c'est qui met en avant vos acteurs locaux, ceux qui font vivre le territoire. Alors aujourd'hui, nous recevons l'AGAD, Association d'aide à domicile. Nous avons dans notre studio Elisabeth Détourbe, directrice, et Josette Labéguerie, présidente de l'association. Bonjour mesdames, comment allez-vous ?
Bonjour, très bien,
oh, impeccable. Quel bel ensemble. On va passer une petite heure ensemble, on va découvrir l'AGAD. Certaines personnes connaissent déjà, parce que des fois on a eu besoin de vos services et d'autres non, et c'est l'occasion de vous faire découvrir et de parler aussi de vos besoins, parce que je crois qu'il y en a, hein, on en parlera tout à l'heure. On va d'abord écouter le flash info national et international et on se retrouve ensuite pour la première partie de cette émission. Et voilà, c'est parti mesdames. Alors tradition oblige, on commence toujours l'émission par une petite trajectoire personnelle de nos invités, pour avoir une petite idée de qui ils sont, qu'est-ce qu'ils ont fait et quelle était leur trajectoire de vie qui les a menés ce jour à ce micro. Je sais, c'est pas forcément évident, et voilà, je vous laisse commencer. Allez, on va commencer par Josette.
Ben voilà,
allez,
ben, écoutez, bonjour. Tout d'abord bonjour à toutes et bonjour à tous. Écoutez, je suis depuis 5 ans maintenant retraitée je crois active, en bénévolat, je l'entends, hein, total. J'ai, après une formation à l'Institut d'administration d'entreprise, j'ai réalisé pendant une douzaine d'années une fonction en tant qu'accompagnatrice, on va dire, de salariés qui avaient des projets logement, donc dans une association, c'était Action Logement, et j'ai ensuite migré vers une autre structure associative, c'était peut-être ce qui me correspondait le mieux, qui s'appelle Solidaires pour l'Habitat, qui fait partie d'un grand réseau aussi national, et que j'ai dirigé pendant 25 ans dans les Landes, tout en ayant des fonctions de bénévole au plan national.
D'accord.
Et je suis déjà engagée depuis de nombreuses années dans du bénévolat, dans des gouvernances de plusieurs domaines, formation, hôpital à domicile, maison de retraite, association d'aide à domicile, l'AGAD, dans laquelle je suis depuis une bonne quinzaine d'années.
Ben effectivement, c'est pas mal tout ça. Hein, vous êtes bien engagé dans les associations et l'aide aux autres, en tout cas. Hein, ça a l'air d'être votre ADN un peu.
Ouais,
hein.
C'est totalement mon ADN. Voilà. Et je pense qu'il faut s'engager relativement tôt. Donc là, je fais un petit coucou aux futurs bénévoles, même s'ils sont en activité. Parce que dans nos gouvernances, on a vraiment besoin de trouver des bénévoles engagés et qui donnent du temps aussi pour les autres.
C'est vrai. Très bien, merci beaucoup. C'est au tour d'Elisabeth.
Alors bonjour à tous également. Alors ma trajectoire, j'ai commencé par des études commerciales que j'ai effectuées en parallèle d'une pratique sportive, donc le basket. Donc ça se voit pas à la radio, mais je suis
alors,
assez grande,
je ne suis pas étonné, hein, parce que effectivement, elle est grande. C'est vrai.
J'ai ensuite intégré un centre omnisport international dans le Lot-et-Garonne que j'ai dirigé pendant quelques années. Et puis j'ai souhaité changer un petit peu de cap et j'ai intégré une association d'éducation populaire, l'UFCV. Dans le nord de la France, et à la suite, en fait, j'ai souhaité redescendre dans le sud me manquait. Hein.
Je l'entends tous les jours,
voilà,
madame.
Je pense qu'on est tous d'accord.
Hein. Oui.
Du coup, je suis revenue et j'ai intégré un groupe de résidences seniors pour diriger une résidence de service pour seniors, que j'ai du coup dirigée pendant une quinzaine d'années. Et c'est là où j'ai vraiment appris à connaître la population senior. Et c'est vrai que c'est assez logique que j'ai intégré l'AGAD depuis un an, puisqu'effectivement, c'est une grosse partie de notre public. Et plutôt sur un thème plus associatif et à but vraiment non lucratif, c'est ce qui manquait à ma trajectoire. En fait.
Très bien. Ben, merci beaucoup. Vous êtes, vous êtes toutes les deux, vous êtes complémentaires aussi, hein. c'est parfait. On a la chance de vous avoir toutes les deux, je trouve. Alors, on va parler de l'AGAD. Donc, ça existe depuis une quarantaine d'années. Hein. Et, c'est quoi son histoire
Alors, l'association Loi 1901, je précise, hein, sans but lucratif, a été créée il y a 40 ans. Donc, on a fêté ses 40 ans en 2025, donc en 1985, par un médecin gériatre du centre hospitalier de Dax.
D'accord.
Et également Yannick Garcia, je peux le citer, parce que c'est l'actuel président de l'hospitalisation à domicile. Et ça a été créé au départ pour faire de l'association de garde à domicile en sortie d'hospitalisation.
Oui.
Voilà. Et au fil des années, c'est une association qui s'est ouverte à d'autres services, que précisera tout à l'heure Elisabeth. Mais aujourd'hui, on est ouvert et on propose des services beaucoup plus larges que seule la garde à domicile.
Oui.
Donc on a une bonne quarantaine d'années dans le département des Landes. Et c'est vraiment une histoire humaine que j'aime à repréciser. Pourquoi ? Parce que c'est de l'engagement de bénévoles qui ont cru dans cette histoire d'association L'Homme 1901 et qui aujourd'hui apporte son soutien à un nombre important de bénéficiaires, puisque c'est pas loin de 600, avec pas loin de 300 intervenantes.
Voilà, très bien. Alors c'est... La raison pour laquelle vous êtes ici aussi, c'est parce qu'on est voisins. Enfin, vous êtes là ici parce que vous méritez de l'aide, parce que c'est intéressant de qu'on parle de vous. Mais c'est vrai que j'ai découvert, il y a peu de temps, qu'on était vraiment très proches. Je suis allé vous voir, je dis, voilà vraiment le type d'invité que je recherche, ça serait très bien. Puis voilà, ça s'est fait. Donc il y avait même une fête des voisins, mais c'est dommage, j'étais invité, mais je ne pouvais pas, je travaillais.
Voilà. C'est dommage, on la refera. Il n'y a pas de problème, avec plaisir.
L'an prochain, je prévoirai, je mettrai ça dans mon agenda. Oui, donc alors, c'est une association mandataire à but non lucratif, hein, donc on l'a bien précisé, c'est important. Alors, votre fonction première, c'est quoi ? C'est de mettre en relation des bénéficiaires et des intervenants, des gens qui vont faire tous les actes qui sont nombreux, qu'on détaillera bien entendu, pour aider des personnes, dont les bénéficiaires.
Absolument, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que nous, notre travail aujourd'hui, c'est de mettre en relation un particulier qui va émettre un besoin avec un ou des intervenants à domicile. Donc ça peut être des aides ménagères, des auxiliaires de vie. Et l'idée, c'est que le particulier va devenir employeur de ces intervenants qui vont devenir ses salariés. Oui. Et nous, notre rôle, c'est bien entendu de recruter ces intervenants à domicile, mais également d'accompagner après et l'employeur, le particulier et les intervenants dans tout ce qui est démarche administrative. Donc ça peut être juste effectuer des plannings, ce qui n'est pas juste parce que c'est quand même un gros travail, mais effectuer pour les aider à gérer un contrat de travail, parce que du coup, il y a un contrat de travail qui relie les deux, en sachant que ça reste l'employeur qui reste responsable et décisionnaire de ce contrat de travail. Et après, on va l'accompagner dans tout ce qui est démarche juridique. Parce qu'effectivement, qui dit relation de travail, dit effectivement un côté juridique qui est indispensable. Et suivre une convention collective et le droit du travail, c'est pas simple.
Ah ben
je pense que tout le monde le sait.
Ouais,
voilà.
Bien sûr.
Donc effectivement, il y a besoin de professionnels. Et du coup, on est professionnels dans ce domaine-là.
Oui. Alors ça c'est... Comment dire, c'est présenter les choses comme ça, c'est ce qui doit permettre de pas mal rassurer des gens, des futurs bénéficiaires, parce que c'est effectivement, dès qu'on se dit à quelqu'un, ah, il faut que tu sois employeur, de quelqu'un, prise de tête, sous les personnes d'un certain âge ou qui sont en difficulté, ils ont certainement pas envie de gérer ce genre de choses. Ils ont du mal à se gérer eux, donc forcément. Et c'est vrai, le fait que vous soyez l'intermédiaire qui va gérer toute cette partie un peu compliquée, c'est le premier argument, j'allais dire, à la limite, pour que les gens ils se tournent vers vous.
Alors ça fait partie d'un argument, effectivement, ça facilite effectivement le travail et la responsabilité de l'employeur, ça facilite également pour les intervenants, mais il faut savoir que du coup derrière il y a quand même un grand plus, en fait un grand bénéfice pour l'employeur et pour les intervenants, c'est que du coup les deux sont liés par un contrat de travail et que du coup il n'y a pas de turnover en fait, c'est-à-dire que quand l'employeur décide et le particulier nous dit « moi j'ai besoin d'une aide à la toilette à 9h parce que je me réveille à 8h30 », on va mettre en place une intervention à 9h, à 10h ou à 11h.
C'est personnalisé, bien sûr.
Et ça sera toujours la même personne qui interviendra, parce que c'est un contrat de travail qui lie les deux personnes. Donc ça permet vraiment d'avoir une stabilité dans les équipes, dans les interventions, et de respecter la vie et les habitudes de vie de l'employeur et du particulier.
C'est très bien de le dire.
Et je rajouterais, au propos d'Elisabeth, qu'également, ça permet de conserver à la personne son rôle de décisionnaire, d'être acteur de sa vie. Alors bien évidemment, il y a plusieurs modèles de service à la personne, mais le modèle mandataire, c'est un modèle qui permet à la personne d'être décideur. Et plus on est décideur et plus on gère les actes de la vie quotidienne, plus aussi on garde de la... on fait de la prévention de la dépendance. C'est un des aspects qu'on défend au maximum. Pour permettre à des personnes de rester le plus longtemps chez elles, parce que c'est la priorité domiciliaire qui aujourd'hui est la plus forte. Et ça permet à chacun d'être tant qu'il le peut.
C'est vrai que c'est la demande de beaucoup de gens.
À son domicile.
De rester à domicile. Alors, et pour avoir fait partie des gens, j'ai eu des parents, etc., qui ont eu un certain âge et puis qui sont partis maintenant. J'ai connu l'AGAD, l'existence de ce genre de structure à ce moment-là. Et ce côté rassurant et techniquement pratique d'être l'intermédiaire, c'est aussi très bien pour les aidants. hein, pour les familles des gens qui des bénéficiaires, parce que ça rajoute aussi un souci en plus. Ah, en plus, il va falloir que je m'occupe de ça. Enfin, voilà, ça, comment je vais faire? Parce que les aidants, hein, on en parle souvent pour plein d'associations, hein, malades, handicapés, etc. Les aidants, ils ont une charge mentale très, très lourde en général.
Ouais, ça les rassure en fait. Mm-hmm. Ça les rassure de nous avoir à côté. Et effectivement, ça nous arrive du coup de reprendre par exemple des personnes qui sont en CESU, mm-hmm. parce que le CESU, on connaît tous, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui passent par le CESU, ce qui est très bien. Hein. Mais c'est vrai que du coup, lorsqu'il y a un problème dans la relation de travail entre le particulier mm-hmm. et le salarié, effectivement, du coup, mm-hmm. l'aidant peut assez facilement se tourner vers nous en disant bah, qu'est-ce qu'on peut faire. Et du coup, nous, on peut reprendre justement ces contrats-là. Mm-hmm. Sans, alors, le contrat de travail reste, hein, demeure, hein, donc oui. l'intervenant ne change pas. Mm-hmm. Mais par contre, nous, on devient vraiment acteur de la relation et on est là pour épauler et pour aider, accompagner en fait mmh. ça, l'aidant ou les aidants du particulier mmh. employeur.
Ouais, très bien. Bah, c'est déjà le moment de faire notre première petite pause, un petit peu de musique et on se retrouve ensuite pour la deuxième partie de notre émission. Et voilà, c'est reparti. Alors, on va parler un petit peu, on va découvrir qui sont les bénéficiaires. Voilà, qui fait appel à vos services et qui, bah, du coup, les gens qui vont nous écouter vont peut-être se dire, vont peut-être se reconnaître dans la description qu'on va faire et se dire peut-être que je vais vous contacter, la GAD. Alors, qui peut faire appel à vous?
Alors, bah, écoutez, en gros, on va dire toute personne qui le souhaite, puisqu'en mmh. fait, on intervient effectivement majoritairement, auprès des personnes âgées, mais on intervient également auprès de personnes actives, voilà, mmh. qui ont besoin à un moment donné d'une aide ménagère, voilà, tout simplement. Mmh. Donc ça, c'est tout à fait envisageable. Et après, effectivement, c'est les personnes âgées, c'est des personnes en situation de handicap également. Voilà, donc ça couvre mmh. vraiment un très large public. Et en général, on est sur une moyenne à peu près de 60-65 ans, en fait, dans nos interventions.
Oui, d'accord. Mmh. Oui, parce que alors donc ça peut être un particulier, ça pourrait être moi par exemple. Je me dis tiens voilà je
banco.
C'est le souk à la maison. Je suis trop nul en ménage.
Banco. Oui.
Il faut quelqu'un pour m'aider.
Avec hein. plaisir.
Voilà, d'accord. Ouais. Oui, parce que vous êtes entre guillemets vous êtes intermédiaire. Hein, donc
on est intermédiaire.
Voilà, c'est
tout
ça.
À fait.
Voilà.
Mais
on est aussi persuadé que plus tôt la personne prend un accompagnant, quelqu'un chez lui, plus ça sera facile avec les années d'intégrer qu'une personne vienne apporter de l'aide
oui.
au domicile. Parce
oui.
que
oui.
quand on est vraiment très âgé, c'est compliqué
oui.
d'avoir bon, une personne, ça
et
va,
oui,
mais
oui.
quelquefois avec d'autres services, c'est plusieurs personnes et,
bien sûr.
Et c'est quand
oui.
même la vie privée qui est
oui.
très impactée.
Surtout qu'en vieillissant, on devient de moins en moins souple, et physiquement et psychologiquement.
C'est pas faux.
Hein,
c'est pas faux.
Non, mais c'est vrai, c'est comme ça, on le sait. Même on s'en rend compte des fois, quand on pense à soi, quand on avait 15 ans, et on a un souvenir FM ici, donc ça nous arrive souvent de se rappeler en écoutant des anciennes chansons, de revenir dans le temps où on l'écoutait à la radio, hein, jadis. Et du coup, c'est vrai qu'on se rend compte qu'on a changé aussi hein, en faisant cette introspection. Donc c'est sûr que ce n'est pas forcément évident. D'où l'aspect que vous avez important dans le casting, entre guillemets. Hein, c'est-à-dire la partie choix et mise en relation des bénéficiaires et des personnes qui vont intervenir. C'est la partie, entre guillemets, psychologique de la chose est très importante. C'est pas juste de la technique, du savoir-faire.
Alors effectivement, la technique et le savoir-faire, c'est la base. Mais effectivement, les compétences, on va dire, psychosociales, le comportement, ça reste, 80% de la personne, en fait. Mmh. Et 80% qui vont faire que la relation entre le particulier et l'intervenant va matcher, en fait. Voilà, que ça va bien se passer, qu'il va y avoir une confiance réciproque. Et que du coup, l'accompagnement de la personne, parce qu'on est vraiment sur de l'accompagnement, sur du confort, l'accompagnement va être vraiment facilité. Donc il faut vraiment que ce lien-là soit fait. Et effectivement, les compétences psychosociales, il faut de l'empathie, il faut du respect, il faut de la patience, il faut ça reste vraiment des qualités qui sont pour nous qui sont inévitables. Donc effectivement, nous on part sur cette base-là quand on procède au recrutement et on fait vraiment attention au comportement de la personne. Alors au niveau qualification, ça devient de plus en plus compliqué. Hein.
Oui,
je
oui.
pense que ça c'est pour toutes les structures pareil effectivement, puisque les personnes diplômées il y en a de moins en moins malheureusement. Donc la formation peut se faire après au fur et à mesure, hein, dans le cadre de la GAD ou dans le cadre d'autres structures. Mais effectivement, la base, il faut qu'il y ait ces compétences psychosociales et le respect de la personne âgée. Et voilà, ça reste la base.
Bien sûr. Alors, on parlait tout à l'heure des aidants. Ça doit vous arriver, des fois, que des aidants de la personne... Bon, en général, j'imagine qu'en général, ce sont les aidants qui viennent vous voir pour dire j'ai besoin, j'ai ma maman, mon papa, etc. J'imagine que c'est très rarement les bénéficiaires directement qui viennent vous demander, ou est-ce que ça peut arriver des fois ?
Ouais, ça peut arriver, ça peut arriver. Après, effectivement, il y a quand même beaucoup d'aidants. Il y a aussi des personnes qui travaillent dans des structures, des assistantes sociales de l'hôpital, par exemple, de santé service ou autre. Hein. On ne va pas citer toutes les structures parce que sinon, on y passe toute l'heure.
Oui.
mais effectivement, ça peut être tout professionnel qui va à un moment donné accompagner ce particulier. Ça peut être l'aidant, mais la personne peut le faire aussi directement. Et effectivement, souvent, elles le font sur quand la personne n'est pas encore en urgence absolue de mettre en place cet accompagnement. En fait, quand on est vraiment sur un projet à moyen long terme, on se dit, je vais commencer par déjà avoir un accompagnement, une personne qui vient à la maison pour de l'aide ménagère. Et puis petit à petit, en fait, ça va aller crescendo. Donc, il faut une certaine maturité, on va dire, aussi, dans ce projet-là.
Bien sûr. Alors, j'imagine aussi que peut-être des aidants font appel à vous. C'est-à-dire, on a parlé tout à l'heure que n'importe qui pouvait être bénéficiaire. Il y a peut-être des aidants qui se retrouvent justement un peu à la ramasse, fatigués, lassés, en difficulté. Et peut-être que des fois, des aidants eux-mêmes disent « Tiens, est-ce que vous pouvez venir chez moi aussi ? Est-ce qu'on peut mettre en place quelque chose ?» C'est des choses qui arrivent aussi des fois.
Oui, ça arrive souvent, tout à fait. Parce qu'on sent qu'il y a un besoin d'aide, il y a un besoin de souffler, il y a un besoin eux-mêmes d'être aidés. Alors après, ça reste une partie qui est compliquée parce qu'on sait que les aidants, souvent, sont dans le déni, malheureusement. Heureusement d'être aidant. Donc déjà, il faut que la personne soit en capacité de se dire « j'ai besoin d'aide et je ne vais pas culpabiliser si moi-même je me fais aider pour aider moi-même mon mari ou mon épouse ». Et ça, c'est un pas qui est très compliqué à franchir. Donc on est là aussi pour les aider, pour les accompagner là-dedans. Parce qu'effectivement, pour eux, c'est déjà un grand pas, en fait, de se dire « j'ai besoin d'aide et je vais faire appel à quelqu'un pour m'aider moi et pour souffler. Et tout se passera bien pour mon époux ou mon épouse ». C'est déjà un pas qui est super.
Ouais, c'est vrai que c'est un sujet qu'on aborde avec pas mal d'associations ici qui s'occupe de maladies, de cancers, etc. Voilà. On parle souvent, évidemment, le centre dispositif, c'est le malade, le bénéficiaire, mais à chaque fois, on constate que les aidants sont des victimes collatérales de la situation, et qu'ils le veuillent ou non, effectivement, il y a cette partie psychologique, une surcharge mentale, physique, qui fait qu'eux aussi sont en souffrance. Et donc, c'est vrai que dans un dispositif complet, il faut prendre en charge aussi cet aspect-là des choses, voilà.
Absolument.
Il faut le dire, c'est important. Et puis donc, vous avez parlé tout à l'heure des bénéficiaires un peu type, c'est plutôt des personnes d'un certain âge, évidemment, qui font... Alors pas forcément des gens qui sont, entre guillemets, dans une phase compliquée de maladie, longue, etc. Ça peut être aussi du retour d'intervention, puisqu'au départ, c'est un peu ça, la garde... Parce que c'est vrai que quelqu'un qui se fait opérer de toute manière, même qu'il soit jeune ou moins jeune... En général, il faut qu'il y ait quelqu'un 24 ou 48 heures avec lui après anesthésie. C'est en général comme ça qu'on fait. Vous faites aussi ce genre de choses, pas forcément quelque chose sur du long terme.
Ça peut être sur du court terme, effectivement. Vous avez parlé de retour d'hospitalisation. C'est exactement le cas où une personne est partie en maison de repos ou en maison de rééducation. Et effectivement, derrière, il y a une appréhension en fait, de revenir à la maison et de ne plus se sentir encadré. Parce qu'effectivement, il y a ces côtés rassurants quand on est en structure. On se dit, qu'il arrive, je peux appeler quelqu'un, contacter quelqu'un, il y aura quelqu'un sur place. Sauf que quand la personne âgée se retrouve toute seule du jour au lendemain, effectivement, il y a une appréhension et il y a besoin d'être rassuré sur les premières nuits. Donc ça, on le fait, de passer la garde de nuit, ça, c'est des interventions qu'on continue à faire, en semaine, en week-end, n'importe quand.
Oui.
Donc ça, c'est vraiment une particularité aussi de notre structure, de continuer à le faire. Et c'est important pour les rassurer de manière à ce qu'ils se sentent, petit à petit reprendre leur autonomie et leur indépendance chez eux, leurs habitudes,
c'est
et
ça,
reprendre confiance, en fait, dans leur, dans leur habitat.
Oui, c'est ça, c'est une différence fondamentale entre rester dans une chambre d'hôpital, même s'il y a quelqu'un qui est sur place, et rester chez soi, parce que ça, les gens... Enfin, voilà, moi, j'ai connu ça, et puis tout le monde me dit... combien de fois j'ai entendu des gens de certain âge, je veux mourir à la maison. Par exemple, ça, c'est une chose que vous avez dû entendre
bien
plus que moi. Et ça reste quelque chose de fondamental, de cette indépendance, cette liberté. Et puis, on a un attachement, c'est normal.
Tout à fait.
C'est comme ça. Eh bien, on va déjà faire une deuxième pause. On va écouter un petit peu de musique, un petit peu de pub, et puis le flash info local. Et on retrouve ensuite nos invités. Et nous voilà de retour. Alors, je sais que les auditeurs vont être sympas avec moi. Ils vont me pardonner ce jeu de mots, mais c'est vendredi, on est fatigué, donc j'ai mis le Blues Brothers parce que Agathe the Blues. Ça y est. J'espère que vous m'en voudrez pas non plus.
Bravo. Ah super.
Fallait la faire.
Je vais tenter. Je suis sûr que David est en train de rigoler dans son coin.
Excellent.
Voilà. Alors, on va parler de des services qui sont apportés par les gens que vous recrutez. On parlera aussi de ces gens-là et du recrutement, en quoi ça consiste et la formation. formation qui va avec, bien entendu. Alors, on peut faire appel à vous, justement, pour quel type de service, hein, ménage, cuisine, etc. Parlons un peu de ça,
si c'est pas mal, bien. C'est pas mal. oui, effectivement, il y a pas mal de services qu'on peut accompagner. En fait, ça va être effectivement l'aide ménagère, le ménage, le repassage. Ça peut être également la préparation des repas, donc avec ou sans le particulier, hein, oui. Parce que le particulier peut très bien participer en fait à cette préparation de repas. Mmh. Ça peut être l'aide aux courses, les promenades, tout ce qui est animation pour aider le particulier, puis combler et avoir un lien de sociabilité. Mmh. Et ça peut être également tout ce qui est tout ce qui va être inhérent aux auxiliaires de vie, donc l'aide à la toilette, l'aide au lever, l'aide au coucher, et effectivement toutes les gardes de nuit ou de jour, ça, voilà, ça peut être juste simplement être là, en fait. Mm-hmm. Ça, déjà, c'est énorme. Voilà.
Oui. Oui, parce que je pense, pour compléter les propos d'Elisabeth, je pense aussi que les personnes aujourd'hui ont besoin, elles sont souvent isolées, seules, et elles ont besoin d'avoir autour d'elles des personnes qui viennent les rencontrer, et puis aussi qui les sortent de leur domicile, et parce que beaucoup de personnes n'ont pas le permis de conduire, ou ne peuvent plus conduire, ne peuvent quelquefois plus sortir de chez elles, ou quand elles sortent, il n'y a rien. Et donc, elles sont heureuses de retrouver certains lieux qu'elles n'ont pas vus depuis très longtemps. Moi, je prends l'exemple de ma voisine qui une fois par semaine dit j'aimerais bien aller voir tel endroit, tel petit coin sympa, pourquoi pas les tourbières de Metz, aller visiter telle structure, et le bonheur que c'est quand on se recroise de voir que même si ça provoquait un certain travail, parce que physiquement il faut le faire, au retour on a gagné en dynamique et en effort fait énormément.
Bien
énormément.
Sûr, oui.
Et donc ça, c'est un aspect pour nous qui est énormément, qui est très positif, de conserver un maximum d'activité à ces personnes. Parce que si on va chez elles et faire et ne faire que faire, mais on y va aussi pour leur tenir compagnie, on y va aussi pour partager des moments avec elles. Bien sûr, il y a le travail qu'il faut faire, mais c'est aussi ça le travail. Oui. C'est converser, c'est se raconter des histoires, c'est rigoler, c'est aussi trouver des gens, et il faut bien que le duo matche bien.
Bien sûr, oui. Ouais, c'est du lien social.
Du lien social,
voilà,
absolument.
Voilà, c'est ça, c'est techniquement, il y a du service à la personne, mais au niveau de la société, voilà, ça, parce que c'est vrai que les personnes, on a des tas d'exemples, si elles se laissent aller un peu, les gens aussi, si s'en occupent pas, il finit à avoir la solitude. Et la solitude, c'est un peu moche quand même quand elle est subie. C'est vraiment pas marrant, la solitude.
La solitude, c'est vraiment pas marrant, et ça, on a pu le constater, y compris dans d'autres domaines, l'habitat dans lequel j'étais. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont éloignés de tout. Et aujourd'hui, si on veut préserver un maximum d'autonomie à ces personnes, il faut accompagner ces personnes et animer aussi leur maintien à domicile. Parce que c'est facile de parler de priorité domiciliaire, mais il faut aussi mettre les moyens en face, permettant à ces personnes de rester à leur domicile autant que ça puisse se faire.
Bien sûr, oui. Voilà, puis alors, on a un phénomène de société, c'est pas une surprise, c'est un petit peu comme le réchauffement climatique. On sait que la population, elle vieillit. Donc, ce besoin de service à la personne, il va croissant, qu'on le veuille ou non. Alors là, donc il va falloir pallier aussi à ce problème-là.
Alors, c'est la démographie. Je pense qu'on ne peut être qu'heureux aussi que les gens vieillissent. Ça veut dire qu'on a une espérance de vie qui augmente. Ça veut dire qu'on a quand même des services de soins, de santé qui permettent pourvu que ça dure, on est tout à fait d'accord. Et c'est vrai que si on donne quelques chiffres, très rapidement, on a quand même, d'ici 2030, la population des plus de 60 ans qui va passer de 20 à 30%, donc c'est relativement simple à entendre, et la population des 75 à 84 ans qui va passer de 4 à 6 millions de personnes. Donc ça veut dire aussi que cette démographie est là, mais ça veut dire qu'en face, on a aussi des besoins assez conséquents pour recruter. Donc, Elisabeth expliquera après comment l'AGAT fait pour recruter, comment elle met en place des actions. Mais ce que je veux dire, c'est que d'ici 2035, c'est quand même très vite, on a à peu près 45% des personnes actuellement en poste qui prendront leur retraite. Donc,
c'est vrai
ça veut dire qu'il faut les remplacer. Et j'ai envie d'un petit coup de... on peut dire un petit coup de gueule sur le cumul emploi-retraite, parce qu'effectivement, vient de nous arriver avec la loi de finances pour 2026. Un petit point qui nous effraie quand même, c'est qu'à partir du 1er janvier 2027, le cumul emploi-retraite ne pourra plus se faire dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui. aujourd'hui. Oui. Donc toutes les personnes qui aujourd'hui prennent leur retraite en 2026 et qui peuvent cumuler une journée de travail ne seront pas concernées. Tous ceux qui sont en place ne seront pas concernés, mais à partir de 2027... toutes les personnes qui prendront en plus de leur retraite, qui quelquefois n'est pas une grande retraite, un emploi, elles seront pénalisées. Donc on va faire pression bien sûr avec notre fédération mandataire et avec la fédération du particulier employeur pour que les choses évoluent. Mais en attendant, cette loi elle est passée début d'année 2026.
C'est vrai que j'en ai entendu parler. Alors est-ce que c'est assujetti aux revenus ? C'est-à-dire est-ce que les retraités, entre guillemets, aisés, vont être plutôt coincés et ceux qui ont vraiment une petite retraite, ils seront moins embêtés.
Alors moi, je vais vous dire, nous, on va s'intéresser vraiment à ceux qui ont des petites retraites. C'est bien sûr, c'est pour tout le monde. Mais ce qui nous intéresse à nous, c'est si on regarde la retraite moyenne en France, elle n'est pas très élevée, à Nouvelle-Aquitaine non plus. Et si on y ajoute les retraites agricoles, on doit être aux alentours de 1200-1300 euros. Donc ça veut dire que si la personne ne peut pas compléter sa retraite avec un petit pécule supplémentaire, ça va nous causer vraiment des soucis. Et en même temps, il faut savoir aussi que quand vous prenez votre retraite, c'est de la sociabilisation que de pouvoir continuer aussi à travailler un ou deux jours par semaine. Et tout cela aussi, ça participe pour nous à la prévention de la dépendance. Donc ces enjeux-là, ils sont majeurs pour les années qui viennent. Peut-être un petit mot sur le recrutement.
On va en parler, du coup, les personnes qui viennent aider les bénéficiaires. Alors déjà, je suppose que vous en cherchez sur votre site internet, etc. J'ai cru comprendre que vous recrutez parce que vous en avez besoin.
Alors, on recrute effectivement toujours, tout le temps, tous les jours, en fait, et quel que soit le secteur, puisque effectivement, nous, la GAD, on a une antenne à Dax, une antenne à Mont-de-Marsan, mais on est aussi situé sur la côte landaise, en Chalosse, un petit peu partout sur le territoire landais. Le recrutement, aujourd'hui, c'est un véritable défi pour nous. Alors, pour nous, la GAD, mais je pense pour toute structure, finalement, on va élargir même aux structures médico-sociales, parce que je pense que là, tout le monde est concerné. Donc c'est un vrai enjeu et effectivement les besoins sont énormes. Aujourd'hui, nous, dans nos intervenants, nous avons pas mal de personnes qui ont 50 ans, 60 ans, voire plus. Donc effectivement, ces personnes-là, à un moment donné, vont s'arrêter de travailler. Et on sent que les jeunes ne sont pas forcément enclins pour l'instant à intégrer ce genre de métier. Donc on essaye d'agir de ce côté-là. Donc on a deux personnes au sein de la GAD qui sont des référents métiers, qui sont en charge de recruter des intervenants, mais également de les former, de les accompagner sur leur premier temps d'intégration, si c'est un poste qu'elles prennent juste et qu'elles ne connaissent pas encore trop le métier, ou alors d'apporter un complément de formation s'il y a des acquis qui ne sont pas encore complètement là. Et puis c'est également faire le lien avec le particulier employeur. Mais du coup, on a ces deux postes qui nous aident vraiment bien et dont la fonction est également d'aller, prêcher la bonne parole sur ces métiers-là, sur ces métiers d'accompagnement à la personne auprès de toute structure, ça peut être des organismes de formation, ça peut être à France Travail, ça peut être autre, pour essayer d'inciter des personnes, ne serait-ce qu'à venir tester. Là, on va recevoir la semaine prochaine un monsieur en stage d'immersion qui va venir conforter son souhait d'intégrer ce genre de métier et qui va venir sur le terrain pour voir effectivement est-ce que ce métier lui plaît ou pas. Et donc ça, c'est tout à fait dans notre cadre et c'est important parce que il faut vraiment que ces personnes-là passent par la phase testée. Parce que le domicile, il y a ce qu'on imagine de la personne âgée. Et effectivement, on a beaucoup de personnes qui ont des pensées sur la personne âgée. Puis en fait, quand elles interviennent à domicile, elles se rendent compte, finalement, ça se passe super bien. Il y a des a priori qui ne sont pas forcément positifs. Fait, ça se passe super bien. Il y a un lien de confiance, il y a des échanges, il y a des échanges d'expérience, de tout. Et c'est vraiment très positif. Donc il faut y aller, en fait.
Alors c'est quoi le parcours du recruté chez vous ? Ça commence par quoi ? Alors déjà, est-ce qu'il est adressé par une structure, on parlait de France Travail, etc., où c'est plutôt des gens qui viennent vous voir. Et ensuite, ça commence, j'imagine, par un entretien qui, lui, est fondamental.
Oui, on reste dans une relation de travail, effectivement. Ça peut passer par France Travail, ça peut passer par la mission locale également. Et souvent, ce sont des personnes qui vont directement postuler via notre site ou alors en nous envoyant un mail, tout simplement, ou en passant. Des fois, on a des personnes qui franchissent la porte et puis qui nous donnent leur CV.
On est bien accueillis, d'ailleurs, chez vous. Je l'ai fait, donc j'ai constaté.
Merci. Voilà. Vous avez déposé votre CV ?
Non, pas encore. J'y pense.
D'accord. Et effectivement, derrière, il y a un entretien de recrutement, alors avec notre ou un de nos deux référents métiers. Donc il y en a une sur Dax et une sur Mont-de-Marsan. Et puis après, effectivement, en fonction de la personne, de ses compétences, donc on prend, comme je disais tout à l'heure, hein, les compétences psychosociales, ça a vraiment une grosse partie. Donc si on sent qu'il y a quelque chose pour nous qui n'est pas clair, on ne va pas recruter la personne. On part du principe qu'on va mettre au domicile d'un particulier une personne qu'on mettrait chez nos parents.
Oui, bien sûr.
Voilà. Donc à partir de ce principe-là, il faut qu'il y ait une confiance, il faut qu'on sente que la personne est stable et est une personne dans le respect, dans la confiance. Donc ça, c'est une partie importante. Et si la personne n'a pas suffisamment d'acquis sur certaines choses, ne se sent pas rassurée sur certains acquis techniques, on va avoir notre référent qui va venir compléter, en fait, alors ce n'est pas des formations, puisqu'on n'est pas organisme de formation, mais sur un accompagnement, en fait, de quelques heures sur des gestes très précis qu'on va faire au sein de la GAD. Voilà. Et après, effectivement, on va aller accompagner sur une première intervention l'intervenant au domicile du particulier. Mmh. Et puis l'idée, c'est de suivre après, notre objectif, c'est ça aussi, de suivre la relation entre l'intervenant et le particulier et d'être à l'écoute de l'intervenant s'il y a quelques difficultés que ce soit, en fait. D'être là pour s'il y a une difficulté sur un acte technique ou sur la relation avec l'employeur. Voilà, c'est d'être présent tout au long de la relation.
Bien sûr. Alors, vous êtes combien en termes d'effectifs là sur Dax, là à côté, combien de personnes, alors déjà de la GAD et ensuite les personnes que vous gérez en termes de quantité?
Alors sur Dax, au niveau administratif, on est 9, on est 4 sur Mont-de-Marsan, et au niveau des intervenants, on est à peu près, il y a à peu près 150 personnes sur Dax. Alors quand je dis Dax, c'est depuis l'antenne de Dax, coup ça compte la côte, etc.
Voilà,
et après sur Mont-de-Marsan, il y a une bonne cinquantaine de personnes d'intervenants à domicile.
Ouais. Très bien.
Hommes et femmes, je précise, parce qu'il y a quelques hommes.
Oui. oui, j'espère, j'imagine, il faut. On va déjà faire notre dernière pause et on va attaquer la dernière partie de cette émission. Et nous voilà, la dernière partie de cette émission, mais il y a encore des choses à se dire, on ne va pas se quitter comme ça, n'est-ce pas mesdames?
Non.
Alors oui, on voulait parler de quelque chose qui va peut-être rassurer aussi les gens qui envisagent de travailler dans cette fonction dont on a parlé, c'est les petits changements qu'il y a eu sur la rémunération, hein, sur un lissage, on va dire, sur le temps.
Oui, effectivement. Donc, moi, je lance un appel à toute personne qui a envie de connaître ce métier et de le pratiquer. Je lance vraiment un appel à candidature. On est vraiment là d'abord pour... Alors les personnes peuvent venir compléter une activité qu'ils ont déjà en annexe, donc elles peuvent venir avoir simplement un contrat de 4 heures ou 6 heures par semaine, simplement, voilà, c'est pas forcément un temps plein, donc ça c'est quand même un intérêt. Et effectivement, depuis quelques années, on a une politique au sein de la GAD qui a été déjà de rehausser le taux horaire pour les intervenantes. Donc on est aujourd'hui largement au-dessus du taux conventionnel, donc ça c'est quand même un aspect important, parce qu'effectivement on a du mal à recruter, donc l'aspect rémunération reste important. Et puis il y a 3 ans il a été rendu obligatoire la mensualisation. Alors qu'est-ce que c'est que la mensualisation? C'est simplement, alors c'est simple mais en même temps c'est pas aussi simple que ça administrativement, c'est de permettre en fait aux intervenants de prendre des congés payés, c'est-à-dire qu'en fait jusqu'il y a 3 ans elles étaient payées 10% de plus tous les mois au titre de leur congé, sauf qu'après, quand elles s'absentaient, elles n'étaient pas payées. Oui. Et donc, de ce fait, les personnes ne s'absentaient quasi jamais. Donc, c'était quand même compliqué au niveau physique, au niveau psychologique, puisque qui aujourd'hui met 10% de son salaire de côté pour pouvoir partir en vacances? Je pense que personne ne le fait.
Ouais, c'est comme l'intérim, mais l'intérim, c'est ça aussi, ça fonctionne comme ça. Hein.
Absolument. Et alors, aujourd'hui, avec cette mensualisation, en fait, elles cotisent comme tout le monde, comme tout salarié de structure. Elles acquièrent tous les mois des congés payés qu'elles peuvent prendre et du coup être payées pendant cette période-là. Donc, c'est quand même un vrai plus pour la vie personnelle, pour l'équilibre et pour sa santé aussi, morale et physique. Voilà.
Tout à fait. Et puis aussi, je crois que Josette voulait mettre en garde les gens. Il faut penser à la retraite et ce qui va se passer, n'est-ce pas?
Alors, penser à la retraite et à ce qui va se passer, moi, je lance un appel aussi. Elle lance un appel, je lance un appel. C'est-à-dire que toutes les personnes qui aujourd'hui ont liquidé leur retraite et qui, d'ici le 31 décembre 2026, souhaiteraient reprendre une activité, faites-le. Faites-le, même si c'est peu, faites-le tout de suite, parce que là, vous ne serez pas concerné par la réforme des retraites au 1er janvier 2027. Donc ça, c'est un point hyper important pour nous, que de vous sensibiliser à ces questions, sachant que ça n'a pas été extrêmement bien présenté. Et pour beaucoup, je pense que ça aura un effet de surprise, que d'apprendre que dès l'année 2027, on ne pourra plus cumuler cet emploi retraite. Oui. Voilà. Un autre point aussi, tout à l'heure, on parlait de mensualisation, de formation. Il faut savoir aussi qu'il y a des plans de formation que nous accompagnons avec des organismes spécifiques, parce qu'il y a des sujets pointus qui nécessitent que les salariés se forment. Ce n'est pas quelque chose qui est facile pour elles. C'est compliqué à mettre en œuvre, mais il faut savoir que des formations se mettent en place en fonction des besoins des intervenantes.
Bien sûr. Alors, il y a aussi des dispositifs qui peuvent aider à financer ça pour certaines personnes, l'allocation adulte handicapé, ce genre de choses. Qu'est-ce qui peut aider les bénéficiaires à financer l'emploi, le service ?
Oui, alors il peut y avoir, par exemple, au niveau des aides, ça peut être l'APA. Je pense que beaucoup de personnes connaissent. Ça peut être la PCH pour les personnes porteuses de handicap. Enfin, il y a des fonds FNAS également pour les personnes qui sont plutôt sur des fins de vie. Donc voilà, après, il y a vraiment cet accompagnement là qui est important. Et puis, comme beaucoup de structures, on est agréé service à la personne, ce qui permet en fait une déduction fiscale et même un crédit d'impôt. En fait, c'est même pas une déduction fiscale, c'est un crédit d'impôt de 50%. Oui. Absolument.
Et nous sommes en défense permanente de ce crédit d'impôt sur le plan national, que c'est aujourd'hui une dépense importante au plan de l'État, mais sur lequel on a tous les ans besoin de remettre le couvert pour que on préserve.
Ça finance de l'emploi.
C'est énorme, c'est énorme. Après, il faut savoir que c'est aussi plafonné. C'est plafonné à 12 000 euros par an. Et pour nous, et pour les personnes surtout, c'est énorme de pouvoir bénéficier de ce crédit d'impôt.
Et oui, bien sûr. Ce que je trouve rassurant, d'avoir mes invités et toute la discussion qu'on a eue, c'est que on sent bien que vous êtes vraiment au premier rang. Là, vous êtes compétente et vous connaissez le domaine dont on parle. Et on parlait tout à l'heure au début de l'émission que le côté rassurant était important aussi de dire on va faire entrer quelqu'un dans sa maison, etc. Et de trouver un interlocuteur, un intermédiaire de qualité où on sait qu'il connaît bien la législation. C'était très intéressant aussi de parler de l'aspect global, social, à l'échelle nationale de la chose, parce que ça concerne tout le monde. Ça va concerner tout le monde à un moment ou un autre. On est d'accord, ça ? On ne peut pas y couper. Effectivement, il y a des gens qui n'ont pas encore passé par le cap de parents malades. Il n'y a pas que ces cas-là, mais c'est vrai que c'est une chose qui va probablement arriver à un moment donné. Et donc, maintenant, on sait que vous existez, que vous êtes là. Et ça, c'est le point positif, si je puis dire.
On peut dire ça. Merci pour le résumé que je trouve extrêmement... extrêmement positif, et comme vous le dites, c'est un sujet, que ce soit pour les jeunes ou les moins jeunes, qui concerne tout le monde. Parce qu'on a autour de soi, quand on est très jeune, des grands-parents, quand on est moins jeune, et des parents. Enfin, je pense que c'est un sujet sociétal sur lequel on attend aussi. On attend le plan grand âge dont on parle depuis 10 ans, il n'est toujours pas sorti. Donc on est quand même au pied de l'Himalaya avec notre évolution démographique, et on a besoin d'avoir aussi un cap vis-à-vis de ces aides et de pas nous les remettre en question à chaque exercice budgétaire, parce que c'est compliqué aussi pour organiser le maintien à domicile et préserver aussi une certaine autonomie des personnes que nous accompagnons.
Et surtout quand on pense que, là, ce sera la petite remarque vache de fin d'émission, quand on pense que les décideurs, eux, ils sont souvent un âge qui dépasse celui du départ à la retraite, c'est bizarre qu'ils ne soient pas conscients. Ah oui, c'est vrai, ils n'ont pas les mêmes problèmes, peut-être.
Nous demanderons la pyramide des âges au Sénat et à l'Assemblée nationale.
Voilà, pyramide, je sais pas s'il y en a, mais
Ouais, moi non plus.
Faites ce que je dis et pas ce que je fais.
Voilà. Et paf, moi ce sera la conclusion de cette émission. Voilà, je la garderai au podcast. C'est un pays, je le couperai pas, promis. Même si je reçois des insultes, si Monsieur Macron m'appelle, je tiendrai bon, je vous promets.
Merci.
Merci beaucoup, mesdames.
Merci à vous. Merci pour votre accueil.
Et puis je sais que vous êtes vite rendu, puisque on est voisins. Donc bon retour.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.